dans les trois évangiles du pape Benoît XVI. Dans les trois évangiles, les évangiles synoptiques, quand Jésus pose la question à tous ses disciples, enfin aux apôtres, c'est Pierre qui répond au nom des douze, par une confession de foi qui se distingue nettement de l'opinion des gens. Dans ces trois évangiles, Jésus annonce à la suite sa passion, sa résurrection. Il a sorti l'annonce de son destin personnel, d'un enseignement sur ce que signifie devenir son disciple et le suivre, lui le crucifié. Mais il interprète aussi cette suite de la croix dans un sens fondamentalement humain et anthropologique, comme le chemin qui conduit nécessairement l'être humain à se perdre, sans quoi il sera impossible à l'homme de se trouver. Selon saint Marc et saint Luc, les paroles concernant ce que signifie le suivre sont adressées à tous, contrairement à l'annonce de la passion qui est faite au seul témoin à qui il est en train de parler en particulier. Et comme elle s'adresse donc à tous, elles introduisent dans ce texte la dimension de l'Église à l'intérieur du contexte général. Au-delà de la marche vers Jérusalem que Jésus vient d'entamer, elles ouvrent à tous l'horizon dans sa totalité. De même que l'interprétation qu'elles livrent de ce que signifie suivre le crucifié vise le fondement même de l'existence humaine en général. C'est le pape Benoît XVI. Si vous avez l'occasion de lire le pape Benoît XVI, c'est toujours très, très. C'est toujours très, très profond. Hein. C'est toujours assez fort, le pape Benoît XVI. Il n'explique jamais quelque chose qu'il comprend. Mais c'est un visionnaire. Alors, il regarde. Et le regard qu'il a, c'est un regard comme ça, en profondeur, à travers un visage, par exemple. Il va voir autre chose derrière ce visage. Et puis, il va voir derrière ses. Et puis, il va derrière encore voir se prolonger diverses choses. Et tout ça est vu d'un seul regard. Presque tout ce qui me donne, c'est pas tellement une réflexion, une méditation, etc. Non, non, c'est d'un seul regard. Par exemple, il voit qu'assis à la droite de Dieu le Père, il voit cette solidité vivante de la pierre, toute brûlante, toute vivante, toute lumineuse, toute cristalline du Christ, du Fils unique de Dieu, enraciné précisément dans sa terre, hein, c'est-à-dire à la droite du Père. Et puis il voit, il regarde que dans cette pierre angulaire, derrière cette pierre angulaire, il y a toutes les pierres quoi, qui se construisent, toutes les pierres des pierres qui se construisent à l'intérieur de la pierre angulaire, puis derrière la pierre angulaire, pour construire l'église de Jérusalem. C'est des milliers, des millions, des milliards de pierres. Et il voit ces pierres qui sont derrière, qui prolongent, comment c'est plus maintenant. Il n'y a qu'un seul regard pour voir qu'il n'y a qu'une seule pierre finalement, enfin, un seul temple, un seul édifice, une seule roc, une seule citadelle, un seul sanctuaire. Et il voit chacun, le pape, il voit chacun d'entre nous comme étant une pierre vivante, voilà, lumineuse, parfaite, identique, interchangeable. Il voit ça comme ça. D'ailleurs, quand il regarde la foule qui fait des sermons, qui fait comme ça, on voit qu'il regarde pareil. Regarde pareil. Il voit à travers des gens qui sont sur la place Saint-Pierre, et il voit à travers tous ceux qui sont derrière, qui sont comme dedans, ceux qui sont là. C'est un visionnaire. Et on le voit dans ses yeux. Que ses yeux ont un recul d'en haut. Ici c'est pareil, il voit les apôtres, il monte, il lit les évangiles, puis il y a Jésus, dans la parole de Jésus, il voit le regard de Jésus, parlant aux apôtres, à travers les apôtres, ben, il voit quoi? Il les regarde du fond de sa croix, ils sont les apôtres, sa croix, sa mort, c'est les apôtres, ses disciples. Un seul regard comme ça, une incorporation. Sa croix et ses apôtres sont la même chose. Et donc aux disciples qui sont derrière, il dit il faut suivre la croix, prendre sa croix, il faut me suivre. Il dit bien attention, quand il dit il faut me suivre, je ne sais pas si vous avez remarqué, il dit il faut me suivre, il ne veut pas dire n'importe quoi. Nous, quand on n'a pas un regard très, 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 voilà, très surnaturel, très théologal, comme lui, on dit, bon, voilà, on prend, Jésus a pris sa croix, et nous, on va derrière, et on prend notre propre croix, on va suivre Jésus. Alors que pas du tout, non, lui, il voit bien que c'est Jésus qui voit sa croix. Et tout ça, ça fait... Et donc c'est le mystère de la croix, et donc poursuivre, eh bien voilà, poursuivre, c'est Jésus qui suit. Parce que ce qu'il y a dans sa croix, qu'est-ce qui suit le mystère de la croix? Qu'est-ce qui fait suivre le mystère de la croix? C'est quoi qui suit le mystère de la croix? C'est le mystère de la croix. Jésus rentre dans le mystère de la croix, une fois qu'il est dans Jérusalem. Et il rentre, ça y est, le mystère de la croix a commencé. Hein. Et ce qui suit le mystère de la croix, c'est que sa croix suit elle-même son propre mystère de croix dans l'hostie. Alors vous dites l'hostie, le sacrifice. La victime, c'est la même chose, c'est le même mot. Hein. C'est le même mot. Quand vous traduisez le texte de la messe, bon, en latin, hostiam puram, le sacrifice saint. Ostiam sanctam, ostiam, le sacrifice saint, ostiam immaculatam, le sacrifice, l'hostie, le sacrifice, la victime, c'est la même chose. La croix, c'est la même chose. Donc ce qui suit Jésus crucifié, c'est l'hostie. Et donc d'un seul regard, le pape, il voit ça, il voit que ce qui suit, ceux qui suivent, eh bien, c'est ceux qui suivent, c'est ceux qui sont dans l'hostie. Et ceux qui suivent comme hostie, une seule hostie. Vous comprenez? Et ils voient ça. C'est beau, ça. Le pape Benoît, c'est pas... C'est quelqu'un... Alors, très bien, il peut s'effacer. Hein, puisqu'il a suivi Jésus, on ne le voit plus, mais il est toujours. Il a suivi la croix, et ceux qui prennent sa croix, ils me suivent. Et c'est d'un seul regard. D'un seul regard. Toujours, allez, vous allez voir. Souvent comme ça avec lui. Elles introduisent donc la dimension de toute l'Église à l'intérieur de cette vision, dans l'annonce de la passion qui fait aux seuls proches, les seuls apôtres et seuls témoins, et donc font voir la dimension ecclésiologique à l'intérieur du contexte général de tous les gens, de toute l'humanité. Au-delà de la marche vers Jérusalem que Jésus vient d'entamer, elles ouvrent donc à tous l'horizon dans sa totalité. D'un seul regard, l'horizon dans sa totalité. Et c'est cela, elle livre et elle dévoile ainsi ce que signifie suivre Jésus, le crucifié, prendre sa croix et le suivre comme étant le seul regard qui lui explique l'existence de l'humanité en général. C'est un horizon comme ça, un regard profond. Donc à chaque fois que je suis Jésus, bien sûr j'ai le regard fixé sur Jérusalem, et de Jérusalem vers le ciel, mais j'ai aussi du dedans, un fond de la Jérusalem crucifié dans l'hostie, un regard sur ceux qui me suivent, ceux qui du pied de la croix sont rentrés en moi, se sont éperdument engloutis, immergés, quoi. Assimilé dans l'hostie. C'est ça qui suit la croix, suivre la croix. Et de là, ils sont tout proches, bien sûr. Ils sont une seule pierre vivante. Ils sont l'intérieur de la sève, pas seulement la sève, mais aussi le cœur d'accueil de l'Église tout entière, le contenant de l'Église tout entière, du corps mystique vivant. Et ça, c'est la signification de l'horizon de tous les hommes, si les hommes existaient, pour rentrer à l'intérieur de l'Église de la Jérusalem spirituelle, céleste. C'est la signification de toute l'humanité, de tous les hommes qui existent partout, les bouddhistes surtout. N'est-ce pas? Les bouddhistes, bien sûr, les bouddhistes. Ah, ce regard est extraordinaire parce que on dit, mon Dieu, il est loin de l'église celui-là, mais ça c'est pas un regard chrétien ça. Oh, qu'est-ce qu'il est loin de l'église, mais c'est pas un regard chrétien ça. Oh, qu'est-ce qu'il est loin, c'est pas un regard chrétien ça. Parce que c'est pas un regard qui est vrai. Parce que l'église elle est fondue avec Jésus. Et Jésus, lui, il est fondu dans l'hostie. Et l'hostie, elle est fondue dans l'union apostatique déchirée. Et l'union apostatique déchirée, elle est fondue dans le sein du Père. Et la très sainte Trinité, dans l'état victimal d'amour, elle est fondue dans la Créateur, dans l'Église primordiale. Et l'Église primordiale, il n'y a pas un seul être humain qui ne soit pas dedans. Et donc, et on est fondu et on va visiter intégralement tout le monde intérieur de chaque être humain. Sans en oublier aucun, ni même pour le futur, en célébrant en eux toute l'Église, et tout ce qu'aurait dû être l'Église, et tout ce qu'est l'Église, du coup, dans ce simple regard. Et du coup, personne n'est loin de l'Église. Ça, c'est vrai, c'est le pape Benoît, ça. C'est bien de sentir chaque pape un peu. C'est chaque pape. Alors, Oui, je comprends très bien. Et le ciel lui demande de se retirer à un moment pour pouvoir suivre Jésus. Prendre sa croix et suivre Jésus, c'est-à-dire suivre ce qui suit la croix de Jésus. Et ainsi construire l'Église, c'est le rôle du pape de construire l'Église en suivant Jésus. En suivant Jésus, crucifié. S'engloutir dans l'hostie. Être identifié à la victime éternelle. Être envoyé par le Père dans ce monde avec lui. À partir de l'éternité, d'avant la création du monde, nous sommes envoyés divinement comme personne divine dans le monde de l'hostie. Dans l'univers de l'amour en bruxelles, dans la disparition de tout homme, de péché à l'intérieur d'une humanité habitée par l'amour de Dieu, habitée par la visite de Dieu, habitée par la miséricorde. Habité par le regard profond de Dieu. Et du coup, lorsqu'on est là avec la nature humaine tout entière, d'un seul regard, se tourne vers ce qu'elle est. Et on a l'horizon, comme dit le pape anthropologique, de notre humanité. L'horizon humain, quoi. Alors, l'horizon humain de notre humanité, c'est ça. Alors, c'est beau ça, parce que du coup, on pourrait se dire, mais si c'est ça l'horizon humain, c'est quoi l'horizon divin? Ça doit être. C'est quoi l'horizon divin? Ah, ça, Jésus leur dit. Avec vivacité, hein, et puis colère, ça, vous n'en parlez pas de ça. L'horizon humain, notre humanité, et l'horizon divin, ah, vous n'en parlez pas, il faut que le Fils de l'homme soit tué, il faut que le Fils de l'homme soit livré au tourment, il faut qu'il soit crucifié. Au supplicier. Il faut qu'il ressuscite. Il le faut. Il faut que la distance se fasse par l'ascension. S'assied à la droite de Père jusqu'à ce que le Fils de l'homme, hein, c'est bien le Fils de l'homme, c'est-à-dire Dieu vivant, venant sur les nuées, accomplit l'éternité future glorieuse vers nous. L'incarnation, à travers ça, est un mystère vraiment descendant. À partir de la fin. Du terme terminal, final, au fond, et glorieux. C'est de là que Jésus vient pour s'incarner dans la Vierge, à l'intérieur, d'une manière victimale, d'une manière. Alors, c'est pour ça qu'il dit, faites ceci en mémoire de moi. Parce que quand il vient dans le sein de la Vierge, comme ça, c'est de manière forcément victimale. Et c'est à partir de sa gloire. De l'acte pur, l'indivisible, émanation de sa gloire totale et entière, qu'il pénètre à l'intérieur du sein et de la Vierge pour s'engloutir de manière victimale jusqu'aux racines du monde intérieur de chaque être humain et de tous en même temps. Et c'est ça l'hostie. Et c'est dès le départ, 9 mois avant Noël, qu'il vit cela. C'est son tourment, c'est son. C'est vraiment Dieu à ce moment-là. Et c'est pour ça que ça, c'est dès le départ. Il dit, voilà, me voici. Tu n'as voulu ni sacrifice, ni holocauste, ni compensation pour le péché. Alors c'est moi. Voici. Me voici. Ce même. C'est moi qui viens pour faire ta volonté, un créé éternel. La volonté de Dieu, c'est de faire la volonté, un créé éternel de Dieu. L'amour de Dieu, c'est de faire l'amour de Dieu. C'est accomplir l'amour de Dieu, c'est l'enraciner partout. Bon, c'est l'enraciner. Et donc, il s'enracine dès le premier instant, le petit génome de Jésus. C'est drôlement bien, hein? Il n'y a pas beaucoup de générations humaines qui ont pu avoir ce simple regard sur Jésus à partir du génome, parce que on savait pas que ça existait, le génome. Donc on est les premiers chrétiens à faire ça. On est les tout premiers chrétiens, parce que même si le génome, on sait ce que c'est depuis un peu plus quand même de 20 ans, mais. On est les premiers, nous, en 2019, là, à dire, mais tiens, mais c'est ça un génome. Parce que savoir qu'un génome existe au bout d'un microscope, ça t'explique pas ce que c'est qu'un génome. Parce que pour savoir ce que c'est qu'un génome, il faut rentrer à l'intérieur du génome. Et voir ce qui se passe dans la lumière, hein, vivante du génome. Et une âme. Et cette âme, elle a un regard. Elle sait, elle dit oui, elle est libre, elle est magnifique, puisque c'est la création à l'état parfait, c'est le point créateur, c'est le point divin dans le temps. C'est ça qu'ils veulent dévaster. Alors, eh bien, quand Jésus. Et ce jeune homme, alors on en fait mémoire dans l'hostie. Faites ceci dans ma mémoire. C'est impressionnant, c'est très impressionnant, parce que dès qu'il s'agit que c'est Dieu, Saint Paul, Saint Pierre, c'est le Messie, tu es le Messie, le Fils du Dieu vivant, le Messie, le Christ, Dieu, loin de Dieu, l'onction divine de Dieu, tu es. Fonction divine de Dieu, tu es le Messie. Ah, vous n'en parlez pas de ça. Parce qu'il faut que le Fils de l'homme, Dieu, c'est plus grand que le Messie. Le Fils de l'homme, donc, se crucifie. Alors nous, on sait que il vient précisément. Pas derrière nous, pas de manière anagogique, mais la transcendantale du sein de la Vierge. Non, pas comme ça. C'est la cause finale. C'est le Fils de l'homme venant sur. C'est une incarnation descendante. Par rapport au temps, il vient des temps futurs, il vient des temps éternels. Il vient de l'accomplissement, il vient de derrière, plus loin encore. Que la future Jérusalem glorieuse accomplie terminale. Plus loin encore de là. Il vient vers nous. Et donc notre simple regard, nous, d'ici dans le temps présent, dans le génome, il regarde vers les temps futurs. Et les temps futurs, d'un seul regard, il plonge dans l'instant éternel de toutes les gloires. Et c'est de là, c'est pour ça qu'on voit dans l'Apocalypse que Saint Joseph, dans les sceaux de l'Apocalypse, vient de la fin, comme ça, dans un chemin de croix descendant. Alors que l'église de la Jérusalem, des quatre premiers sceaux, monte comme ça vers, pour se disposer à recevoir dans un chemin de croix ascendant. C'est la rencontre des deux, comme ça, chemin de croix, immaculé et ajusté à la divinité incréée de Dieu, qui se rencontre comme ça en nous dans le sixième sceau de l'Apocalypse, pour faire le baiser du véritable amour. C'est un chemin de croix descendant. Vous savez, c'est ça. Il faut lire l'Apocalypse pour avoir un regard qui ne va pas comme ça, qui ne va pas dans un sens ou dans l'autre. On a deux cieux, on a deux. Dans le regard, on a deux perspectives divines et qui sont indépendantes du temps, mais qui les embrassent tous les deux d'un seul regard. Et ça s'appelle le baiser du véritable amour. C'est pour ça qu'il y a 8 chapitres comme ça dans l'Apocalypse, pour faire les chevaux de l'Apocalypse, le cheval blanc. La grâce de la Jérusalem bénie, parfaite, immaculée, accomplie. Puisque la Jérusalem, le reflux de la Jérusalem spirituelle, que nous sommes dans la blancheur de l'hostie, bon, de la divinité en fait. Et puis les 14 chapitres de Saint Joseph qui descendent comme ça, la paternité, de toutes les vertus, les qualités intérieures, de la vulnérabilité de Dieu qui cherche un cœur d'accueil à la mesure de son amour inconditionnel. Vous voyez cette perspective-là? Cette perspective-là, elle est très très proche du pape Benoît XVI. Si on plonge son regard dans l'Apocalypse, et comme il a plongé son regard dans l'Apocalypse, il peut s'arrêter, quoi, hein, et laisser, si je puis dire, son cœur bondir, aller pareil partout, dans les périphéries. Du haut de la croix, du fond de sa croix, du fond de son génome victimal, si je peux dire. C'était un commençant, c'est l'état pur. C'est l'état pur de Jésus hostie. 9 mois avant Noël, c'est l'état pur de Jésus hostie. Jésus sacrifié, Jésus. Tourmenté, c'est là qu'on comprend que le tourment que de la croix, c'est Dieu qui le fait subir à l'âme incarnée de Jésus. Enfin, c'est pas l'âme qui est incarnée, à l'âme de Jésus, et à sa chair, et à son humanité. C'est la divinité qui fait subir le plus grand tourment. Le plus grand tourment. C'est pas les clous. Sinon, Jésus n'aurait pas dit « Faites ceci en mémoire de moi ». L'essentiel, la folie de la croix, elle est là, dans ce tourment que la divinité imprime dans l'état victimal de l'humanité de Jésus. Et c'est oui, tout de suite, ici, dans une joie immense, une gratitude totale. Vis-à-vis de tous ceux qui vont le recevoir. Et vis-à-vis, à travers eux, du Père qui le reçoit. Dans le fond des siècles. Et dans le fond éternel. Ces trois gratitudes font une seule Eucharistie. Une seule gratitude. C'est ce qu'on comprend, quoi, quand on lit l'Évangile. Parce qu'il faut quand même rentrer dans le cœur de Jésus. Si on aime Jésus, il faut quand même rentrer dans son cœur. Il faut quand même avoir ce regard qu'il y a dans le regard intérieur du cœur de Jésus. Si c'est le cœur de Marie, quoi, si on veut. Si... Ça, c'est totalement assimilé, interchangeable, hein, pareil, hein. Le cœur qui bat dans la poitrine de Jésus, c'est le cœur de Marie qui bat dans la poitrine du cœur de Jésus. Hein. Ah, c'est sûr. Et le cœur de Joseph, il bat déjà à ce rythme-là de l'hostie, déjà, depuis. Bon, ça a duré 19 ans pour lui, mais quand il est marié, quand il est là. Le cœur de Joseph, c'est le cœur de Joseph. C'est Joseph qui bat dans la patrie. C'est le cœur de l'unité. C'est pour ça que Marie-Joseph a compris, hein, extasié. Et actué surnaturellement et même dans la créée d'émanation qui bat dans la batterie de Jésus. Et c'est cette même battement de cœur qui bat et qui regarde toutes choses comme ça, en se livrant à l'allégresse d'une victoire accomplie dans le cœur de Jeanne d'Arc, dans le cœur de Jeanne. Jésus, Marie, Joseph, Jeanne, et bien tout ça, ça s'enfonce dans le mystère, dans le cœur du roi. Ça s'enfonce dans le cœur royal de la France, dans la France, c'est-à-dire de l'olivier franc, c'est-à-dire de cet arbre de vie. L'homme, comme dit saint Hildegarde, est un arbre de vie. Cet arbre de vie extraordinaire qui embrasse l'ensemble de l'univers. Il suffit qu'il fasse ça, il embrasse tout l'univers, possédant tous les éléments, parce que tout est attiré, pénétré, transfiguré, transdivinisé en lui. Voilà ce que c'est que l'homme. L'homme dans le Christ Jésus, notre Seigneur. Alors j'ai parcouru toute la terre, et je n'ai trouvé personne. Et dans des cris horribles. Quand Sainte Marguerite Marie entend ça, ce cri, ce visage broyé. Aujourd'hui, on est réconforté parce qu'on sait qu'il y a un. C'est le cœur du saint, le cœur du roi. Nous, on est d'une génération, on a beaucoup de chance. Parce que peut-être que pendant 33 ans, il n'y avait personne, justement. Hein. Pas vraiment, ou difficilement. Aujourd'hui, on appartient à la terre, à une terre où on sait d'un simple regard. J'allais dire, je m'excuse de dire ça, tachyonique, n'est-ce pas? Tachyonique. Nous, on voudrait être un petit tachyon. On est quelque part un petit tachyon. Dès qu'on a ce simple regard. Tachyon est capable de traverser tous les espaces de l'univers en un seul instant. Et c'est de la matière, parce qu'il va plus vite que la vitesse de la lumière. L'avantage de l'accélérateur de particules. On est dans la génération de l'accélérateur de particules. Alors donc les tachyons sont à nous maintenant. Et donc voilà, et avec le tachyon, je peux très bien traverser tous les espaces de l'univers dans un seul instant. Et engloutir tout ça et ramasser tout ça dans le cœur du roi. Il y a un saint sur la terre. Il y a un très grand saint. La femme va mettre au monde un enfant mâle. Et il y en a un, et donc on peut. Il y a. Voilà, moi j'appelle ça, on va appeler ça les six cœurs, vous voyez, les 6 jours de la création. Jésus, le cœur de Jésus, c'est pareil que le cœur de Marie. Le cœur de Joseph et de Marie, c'est le même cœur, hein, dans la spontanéité. Et c'est. Le cœur de Marie, le cœur de Joseph. Ce que je vois faire à mon père, je fais pareillement. C'est le cœur de Joseph et le cœur de Jésus, c'est pareil. Où est-ce que tu vois la palpitation? Où est-ce que tu vois une chair différente? Le cœur du saint, le cœur de Jeanne, mon cœur. C'est les 6 jours de la création. Alors, quand les 6 jours de la création sont une seule regard palpitant, c'est ça qui brûle, et c'est vraiment hein, tachyoniquement, bien sûr organiquement, sur le plan organique, mais aujourd'hui on a un regard qui va plus loin dans ce que signifie l'instant brûlant et palpitant de l'instant présent, dans l'instant palpitant et lumineux et vivant, qui fait vivre la matière. Et là, cet aller-retour est tellement immédiat, tellement instantané, qu'on fait un seul cœur, et qui est dans les 6 jours de la création du Sacré-Cœur de Jésus. Alors on se repose. Une fois qu'on est dans les six cœurs comme ça, alors on se repose, on s'engloutit dans le cœur de tous les hommes pour que le Père fasse le reste. Voilà ce que c'est que l'avertissement. Tu te reposeras le septième jour, parce que le septième jour, c'est Dieu. Tu te reposeras tes soeurs, le travail est réservé au Messie. Le travail est réservé à la sainteté de Dieu lui-même. C'est lui qui fait le reste. Donc on sait aujourd'hui qu'il y a un saint sur la terre. Et donc on sait très bien qu'on doit aller vers lui, où qu'il soit. On doit être en lui, si je puis dire. On doit l'aimer, quoi. C'est-à-dire avoir une espèce d'extase affective. Chercher partout où est ce saint. Savoir qu'il y est, le trouver tout le temps, immédiatement. Et découvrir en lui ce simple regard d'un cœur brûlant, palpitant, embrasé, vivant, incarné. Des six jours de la création, de la charité accomplie de l'Église, dans une humilité tellement grande. Parce que ce qui caractérise le cœur de Jésus, le cœur de Marie, le cœur du Saint, c'est qu'il n'existe plus. C'est l'humilité et l'onction. Voilà, c'est beau que Saint Pierre ait dit, tu es loin, l'onction divine de Dieu lui-même. C'est le Christ, la médecine de Dieu. C'est beau qu'il ait dit ça. C'est la deuxième qualité, mais la première, c'est l'humilité substantielle, quoi. Il y a un saint, c'est l'incarnation même de l'humilité accomplie de la mort de Dieu. L'humilité incarnée, l'humilité divine, faite chair, celle qui a dit oui au départ, en réponse à la propagation du péché originel. Tout de suite, lui, il a dit oui à cette humilité, hein, comme unique réponse. Il y a un saint, et donc notre situation n'est pas du tout la même que ceux qui ont vécu à l'époque de Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, ou ceux qui ont vécu à l'époque de ma grand-mère. Voilà. Il faut évoquer ces choses-là parce que c'est important, Saint Joseph, vous comprenez? Saint Joseph et le roi, Jeanne et nous. C'est l'heure du Père, du coup, quand les six sont éperdument un dans l'hostie, si je puis dire qu'on est victimal, on a un seul souffle victimal en braser. Dans tous les temps, dans tous les lieux, bah, qu'est-ce que vous voulez? Ça veut dire que l'heure du Père est arrivée, hein? Le septième jour est là. Le septième jour est là. Alors, Dieu se reposa le septième jour de toutes ses œuvres. Tu sanctifieras le jour du Seigneur. C'est le jour du Seigneur, donc, est dans notre cœur à ce moment-là. Et aujourd'hui, c'est dimanche 19. C'est le 19e jour du mois du Sacré-Cœur. Donc, c'est vraiment le jour magnifique de la paternité du Sacré-Cœur. Donc il y a un appel, quoi. Celui qui veut être avec moi, bah, qu'il prenne sa croix, qu'il me suive, hein. Qu'il suive ce qui suit. Précisément cette offrande victimale du cœur eucharistique de Jésus, qui est en fait un cœur eucharistique, pas du tout collectif. Hein. C'est pas un cœur eucharistique communautaire. C'est un cœur eucharistique substantiel et entier. Et donc c'est mon cœur. Parce que le regard de Dieu fait ce qu'il voit. Il regarde mon cœur donné à lui comme étant le sien, et du coup, il est le sien. Quand Dieu dit, c'est. Tant que j'ai pas d'inquiétude à avoir, hein. Ah, vaut mieux être dans la sagesse de la croix, parce que être pur, quoi. Hein. Vaut mieux être pur qu'impur, ça c'est sûr. Mais vaut mieux être dans la sagesse de la croix. Parce qu'à ce moment-là, on a tout. On n'est pas dans la sagesse de la croix, on n'a plus rien du tout. Et du coup, on est dans l'obéissance victimale. On est dans l'obéissance, on est dans l'amour incréé éternel. Le merveilleux émanant, reposé, explicite d'inspiration du principe même de l'éternité à l'intérieur des hypostases. C'est ça l'obéissance. On va au-devant, on s'y engloutit et on laisse opérer l'autre. C'est l'amour de l'autre qui fait ma vie. C'est ça l'obéissance. Pureté, vous voyez, sagesse de la croix et obéissance. Voilà. Si un jour vous voulez faire une consécration en disant je ne serai pas moine, je ne serai pas monial, je ne serai pas ermite, mais je mets le voile, je me mets à genoux et je me consacre dans les vœux de pureté, de sagesse. Je fais mon noviciat pendant un an et après je fais mes vœux perpétuels. C'est beau ça. Dans le fiat éternel, dans le oui éternel, voilà, qui est le cœur d'accueil, capable d'accueillir toutes les profondeurs d'amour du Père dans le cœur du Fils. Il n'y a que le cœur sacré de Jésus, hein, qui soit la dimension de l'amour éternel du Père. C'est pour ça que quand on est un seul cœur avec lui, notre cœur est dans le cœur d'accueil, capable d'accueillir tout l'amour conditionnel du Père pour tous les hommes. Et ça me brûle. Hein. C'est ça la consécration. Alors, à ce moment-là, je suis le véritable moine du monde nouveau, la moniale du monde nouveau, le saint d'Israël, l'olivier. L'autel des parfums, la coupe de dilection, amen. Credo in nonum Deo.